Alors, voilà, Benoît. Donc, toi, tu as un parcours un peu spécial parce que tu étais avant publicitaire et puis tu es devenu berger. Donc, il y a quand même une certaine déviation dans ce parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé?
Ouais, j'ai un peu de mal à utiliser le mot de publicitaire. En tout cas, j'ai travaillé dans la publicité, ouais, dans la communication, à des fins commerciales. C'était un peu un hasard, en fait. J'ai jamais eu envie de faire ça. J'ai jamais trop su ce que j'avais envie de faire, en réalité. Je suis né en Normandie, en pleine campagne, au milieu des vaches, dans un tout petit village, où il y avait justement encore des vaches qui passaient dans la rue tous les soirs et tous les matins pour aller à la prairie. À ce moment-là, donc j'étais enfant, hein, je devais avoir 5 ou 6 ans, c'était au tout début des années 70. Et le modèle agricole a complètement changé en quelques années. L'industrialisation est arrivée, notamment les bulldozers qui ont complètement démoli les paysages de mon enfance, en arrachant les pommiers, en recreusant les ruisseaux en ligne droite, dans lesquels j'avais joué, quoi. Quand j'étais môme, avec mes cousins, mes voisins, c'était un espace de liberté assez fabuleux. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de... On avait peur de rien, en fait, quoi. Il n'y avait pas l'espèce de paranoïa qu'il y a maintenant, qui fait qu'on surprotège nos enfants et qu'on leur coupe un peu de leur liberté, quoi. De mouvement, en tout cas. Et ne sachant pas trop ce que j'allais faire de ma vie, j'ai juste suivi le cursus scolaire ordinaire. J'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle un bon élève, donc... J'ai continué, tout en ne sachant toujours pas où je voulais aller. Je suis allé à l'université, toujours en Normandie. Bon, j'ai eu l'occasion de quitter la Normandie une fois. Mes parents ont, eux aussi, changé de vie au moment de l'industrialisation de l'agriculture. Il y a eu aussi la destruction des artisanats des campagnes par l'industrie, quoi. Tu vois, par exemple, au début des années 70, sont arrivés les Buttes, les Conforama et autres marchands de meubles industriels qui ont détruit le besoin de menuisiers et d'ébénistes. Mon père était ouvrier menuisier et voyant ses difficultés, il a changé d'orientation en devenant prof de menuiserie, en passant un concours de l'éducation nationale en devenant prof de menuiserie. Donc il a fallu qu'il change, qu'il aille d'abord à Paris, 2 ans. On a suivi, alors déjà, première rupture. On est parti de la campagne pour aller directement à Paris, habiter à 5 dans un studio dans le 18e arrondissement. Drôle d'expérience, où là encore, l'impression d'une perte de liberté de mouvement parce que c'est la grande ville, que c'est plus dangereux. En tout cas, ça faisait peur à ma mère. Mais ces 2 ans-là sont passés très vite, et puis on est retourné en Normandie. Alors là, la Normandie, c'était déjà plus celle de mon enfance. Elle avait beaucoup changé, moi j'avais changé aussi sans doute, mais elle avait beaucoup changé, la disparition des vaches. Les vaches, elles existaient toujours, mais on les a mises dans des hangars. On les a enfermées pour leur donner du maïs. Et donc on les voyait plus du tout, et ça, c'était, pour moi, c'était assez pénible à vivre. Et puis on est parti en Afrique, au Sénégal précisément. Mon père a fait un contrat de coopération, où là j'ai découvert aussi le monde, quoi, autre chose que ma campagne normande. Là j'avais 14 ans, 15 ans, j'ai beaucoup aimé cette période. Et puis on est rentré parce qu'il fallait passer le bac, c'était vachement important dans la famille. J'ai passé mon bac. Je m'ennuyais ferme, hein. Franchement, ça m'a pas du tout amusé le lycée, quoi. D'abord, ce côté enfermant, ce côté obligatoire, m'allait pas très bien. Et puis après, je vais donc à l'université, à Caen, toujours en Normandie, c'est quand même mon pays d'origine. Je m'inscris en sciences économiques, mais alors, je sais pas pourquoi, je sais toujours pas, tu vois, franchement. J'avais dû entendre sans doute que c'était un cursus qui permettait de trouver une carrière professionnelle assez facile et profitable d'un point de vue financier, quoi, voilà. En tout cas, ça a tenu 2 mois, où je me suis dit, mais alors, emmerdé grave, puis engueulé avec un prof, parce que j'avais pas la même vision du monde que celle qu'il voulait m'inculquer, a priori. C'était quand même l'université, moi je pensais que là aussi on était libre, tu vois, d'apprendre. Donc j'ai changé d'orientation. Très rapidement, je me suis inscrit en histoire. J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai lu toujours beaucoup de bouquins sur l'histoire, depuis tout petit, et notamment l'archéologie, la préhistoire aussi. Je passe une maîtrise d'histoire, tranquillement, sans forcer, mais en m'amusant beaucoup là, par contre. Parce que, autant c'était pas très libre dans les enseignements, autant la vie d'étudiant, l'arrivée seule dans une grande ville, enfin loin de la famille, c'était quand même un sacré plaisir, quoi. Là, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré énormément de gens, d'un peu partout. Puis, je suis sorti de là pour aller faire l'armée, parce qu'à l'époque, c'était encore service militaire obligatoire. Je sors de là avec la nécessité de gagner ma vie, tu vois, de rentrer de l'argent pour bouffer. J'ai 24 ans, 23 ans. J'ai fini mes études, j'ai pas envie d'aller plus loin. fatigué peut-être de l'université, j'en sais rien. En tout cas, je continue sur un chemin que j'ai pas choisi, je ne sais pas où ça me mène. Je continue à faire plein de petits boulots. Puis j'avais rencontré une femme à l'époque qui était élève infirmière et qui voulait partir dans le sud. J'ai dit ouais, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Donc je suis et j'arrive à Perpignan. Et là, je commence par faire des saisons agricoles, ramasser les cerises, faire la récolte du mimosa, les vendanges, la taille des vignes, les pêches, enfin, tous ces trucs-là. Et puis, le hasard fait que je me fais embaucher dans une boîte de publicité. Au départ, je faisais la liaison en voiture, tu vois, pour aller chercher des documents, pour en emporter. Puis, un peu par hasard, un client avait demandé un truc qui lui convenait pas tout à fait. Et moi, sur un coin de web, je lui dis, bah, peut-être qu'on pourrait faire ci, faire ça. Juste quelques idées, quoi. Je rentre au bureau avec ça, j'explique au patron, qui me dit « bah t'as qu'à le faire ». Ah bon, d'accord, bah ok, ça marche. Je fais ça. Après, j'ai enchaîné plein de boulots comme cela, tu vois. Aller voir les clients, essayer de définir avec eux leur stratégie de communication surtout, parce qu'en fait, ils étaient un peu tous à l'agonie, tu vois. C'est quand même, à part Perpignan et la côte, le reste, c'est quand même une ruralité profonde. Ils avaient plutôt besoin d'aide pour se faire connaître des gens autour d'eux. Donc, voilà, je fais ça. Sans aucune conviction, ouais. Non, ça m'intéressait pas du tout. Je pense que j'ai aucune affinité avec le monde du commerce et de la vente. Et pas beaucoup plus avec la publicité d'ailleurs. Mais je fais ça par hasard. Et je le fais pas mal, ça marche quoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai finalement développé une certaine curiosité. J'ai l'esprit assez vif. Voilà, et du coup ça marche bien. Et je gravis les échelons dans cette entreprise de publicité. Moi, en tant que créateur de publicité, je devais m'arranger pour vendre à quelqu'un quelque chose qui n'a aucune valeur, en m'arrangeant pour qu'il le paie le plus cher possible et qu'en plus, il soit vraiment content, quoi. Ça me gênait quand même un peu, d'un point de vue éthique, quoi. Ça m'emmerdait. J'ai plutôt le souvenir d'un boulot qui m'empêchait un peu de dormir la nuit, tu vois. Je me sentais pas à l'aise avec ça, quoi. Et surtout avec le fait de réussir là-dedans. Ça me gênait. Donc voilà, je me suis retrouvé, au bout d'un moment, j'avais 5 personnes qui travaillaient sous mes ordres, quoi, qui faisaient ce que je leur disais. Moi, j'avais les idées, puis eux, ils exécutaient, quoi. Et franchement, je me sentais pas du tout à l'aise là-dedans. En plus, il y avait une espèce d'atmosphère de compétition permanente à l'intérieur de cette boîte, quoi. Et vraiment, je supportais pas, quoi. C'était un truc, ça me stressait. J'aimais pas ça. Un client a besoin de toi. Tu vas le voir. Tu lui demandes ce qu'il veut. Et puis... au-delà de ce qu'il veut, tu essaies de comprendre quel public il veut toucher, de quelle façon et quel message il veut faire passer. Toi, tu es chargé en fait d'écrire le message, quoi, pour qu'il soit parfaitement reçu par le public visé. Alors, il faut que ce soit accrocheur, original, même si ça ne l'est pas toujours beaucoup. Et puis, il faut que ton client accepte aussi de pouvoir dire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il pense de lui, quoi. Tu vois, il a une idée de ce qu'il est et de l'image qu'il a dans le public. Et en fait, toi, tu lui proposes un slogan qui n'est pas du tout son habitude. Et il faut faire en sorte que le mec, il accepte ça et qu'en plus, il soit content, quoi. Voilà. C'est un drôle de métier, quoi. Il faut manipuler, il faut pas avoir beaucoup de scrupules, quoi. Et ça ne me correspond pas tellement. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis, j'ai eu de la chance. Le patron confondait assez facilement son portefeuille et le compte de la société. Donc, ça s'est un peu mal terminé. Une belle faillite. Et puis, la faillite a été déclarée frauduleuse. Il y a eu des abus de biens sociaux, ainsi de suite. Donc, moi, je me suis retrouvé licencié. Et puis, je ne savais pas trop quoi faire, une fois de plus, puisque je n'avais toujours pas trouvé mon chemin. Et là, un copain que je connaissais de Normandie, que je n'avais pas vu depuis pas mal d'années, me téléphone en me disant « Je suis installé dans les Hautes-Pyrénées, j'ai 250 brebis. Enfin, je m'en sors plus, je suis débordé. Est-ce que tu peux venir me donner un coup de main ? Parce que c'est la saison des foins. » Et moi, étant né à la campagne, j'avais conduit un tracteur depuis tout petit. J'avais fauché, je savais faire le foin, donc c'est pour ça qu'il m'appelait. Il savait que j'étais dans les Pyrénées-Orientales. Je ne sais pas comment il l'a su. En tout cas, il le savait. Il a eu mon numéro. Je ne l'avais pas vu depuis peut-être 6 ou 7 ans. Et donc, je lui dis, bah ouais, j'ai rien à faire, ça va me faire des vacances, je monte pour 2 ou 3 semaines, c'était dans les Hautes-Pyrénées, donc entre Col d'Aspin et Col du Tourmalet, et je vais faire les foins. Et puis, bah, je suis jamais redescendu, en fait, quoi. C'est là que la déviation se fait, mais je l'ai pas anticipé, je l'ai pas vu venir, je l'ai pas voulu. C'est juste que je me suis retrouvé avec la possibilité de redescendre à la fois d'altitude, mais aussi dans mon petit quotidien qui n'avait pas de but, en fait. Et puis rester là, dans la haute montagne, et même aller plus haut. Et m'occuper des troupeaux. Ah bah là, je l'ai voulu rester, ouais. J'avais jamais pensé à cette vie-là, quoi. Mais dès que j'ai mis les pieds dedans, eh ben, je me suis senti bien, quoi. Là, justement, j'ai senti tout de suite l'utilité et le sens de ce que je faisais, quoi. C'est-à-dire, être berger, c'est produire la nourriture. Donc, s'il y a bien une activité qui n'est pas contestable dans les activités humaines, c'est celle-là, quoi. Bah voilà, moi, je me sentais bien là-dedans, quoi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu l'industrialisation de l'agriculture en Normandie, je serais devenu simplement éleveur de vaches à la suite de mon grand-père, quoi. Ça aurait pu être ça. Les montagnes, c'est les terres les plus dures, avec l'agriculture la moins productive. Donc ça n'intéressait pas ceux qui ont voulu industrialiser l'agriculture. Et c'est des espaces dans lesquels perdurent des modèles qui sont restés beaucoup plus humains et beaucoup plus naturels, quoi. Les bulldozers, ça ne grimpe pas les montagnes facilement, quoi.
If you see Arky, tell him Tex got a job for him out in California, picking up prunes, squeezing oil out of olives. Oh dear Oaky, if you see Arky, tell him Tex got a job for him out in California, raking up gold, playing fiddle in the follies. Now he'll be lucky if he finds a place to live. But there's orange juice fountains flowing for those kids of his. Oh dear Oaky, if you see Arky, tell him Tex got a job for him out in California, digging all wells. All he needs is a shovel. Arky, tell him Tex got a job for him out in California, selling used cars, just a-waiting for the suckers. Oh dear Oaky, if you see Arky, tell him Tex got a job for him out in California, working in a bank, all he needs is some money. Now he'll be lucky if he finds a place to live. But there's orange juice fountains flowing for those kids of his. Oh dear Oaky, if you see Arky, tell him Tex got a job for him out in California, picking up prunes, squeezing oil out of olives.
Je suis arrivé juste pour faire le foin. Sauf que quand on a fini de rentrer les foins, j'avais pas vraiment envie de repartir. Et le copain me propose de monter voir les troupeaux. C'était les troupeaux de plusieurs éleveurs de la commune qui étaient regroupés sous la garde d'un berger, entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. C'était un endroit vraiment merveilleux. Cette promenade a été vraiment décisive parce que là, j'ai rencontré ce berger avec lequel j'ai discuté pendant plusieurs heures. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, tu vois, tentant, quoi. Un homme de plus de 70 ans qui était encore en activité de montagnard, quoi. Le mec, il montait tout l'été là-haut et il était en pleine forme. Et il était très lucide sur ce qu'il faisait. Il avait l'air bien heureux. Ça m'a séduit. Et comme il prenait sa retraite, pour moi, c'était une tentation d'essayer ce truc-là. Lui, il avait quitté sa vallée une fois dans sa vie. C'était pour aller faire ses 3 jours, tu vois, le recrutement militaire, là. Il a été réformé parce qu'il était trop petit. Et il est rentré dans sa vallée, il n'en est plus jamais ressorti. Il a passé toute sa vie dans cette vallée. Mais en même temps, il était super ouvert sur le monde parce qu'il avait toujours des bouquins dans son sac. Et moi, je me dis, putain, mais je ferais bien ça, quoi. Alors, j'étais pas trop sûr de moi parce que j'avais jamais fait ce truc-là. Je connaissais pas du tout la montagne ni les bêtes. Et j'ai donc passé... 8 mois à m'occuper des brebis de mon copain et puis à tracer sur les montagnes des chemins pour essayer de découvrir un peu et connaître au moins la géographie déjà, quoi. Et puis l'année d'après, donc, mon copain me confie ses brebis. Personne d'autre m'en a confié, évidemment, parce que personne ne me connaissait. Donc je suis monté avec son troupeau, et j'ai passé tout l'été là-haut. Ouais, il en avait presque 400 à l'époque. Deux chiens, qui n'étaient pas les miens, qui étaient ceux de mon copain. Bref, je me retrouve avec 400 brebis. Je passe un été merveilleux. Je découvre quelque chose qui m'enthousiasme. Il y a une journée de panique. La première journée, c'est la panique, tu vois. Quand tu fais la montée avec le troupeau, tu es accompagné, et puis tu restes tout seul là-haut avec le troupeau. Tout le monde redescend. Et là, il y a un moment, difficile, ouais. Ça ne dure pas très longtemps, mais il y a un peu de panique. Et puis, dès que tu as passé ce petit moment-là, c'est tout à fait le contraire. Il y a une espèce de satisfaction incroyable, tu vois, de plénitude, de... Ça y est, je suis enfin un être humain complet, quoi. Il n'y a plus personne. Je dois décider de tout. Je dois réagir à tout. Enfin, la liberté, quoi, tu vois. Une écrasante responsabilité, mais en fait, une liberté totale. Alors là, vraiment, c'est génial, quoi. J'ai passé un été super. J'ai pas eu de galère, peut-être que j'ai eu de la chance, mais j'ai pas eu de galère. J'ai pas beaucoup perdu de bêtes. Celles que j'ai perdues, de toute façon, elles étaient perdues. Elles étaient soit malades, soit blessées. Non, il n'y avait pas de loup à l'époque. Donc je redescends à un troupeau en parfait état. Évidemment, les voisins qui regardaient ça en se disant « Putain, ce Parisien qui va garder les brebis. » Tout ce qui n'était pas de la vallée était soit toulousain, soit parisien. Y voir descendre les brebis, et puis j'ai même droit à quelques félicitations, ce qui de leur part est quand même un exploit, quoi. Parce que c'est un milieu hyper fermé. En tout cas, ça marche bien, ça me permet d'être vu différemment dans la vallée, ça se sait. Alors là, j'ai pas besoin de faire de publicité, tu vois, c'est un milieu où tout se fait tout seul. Je m'occupe de deux bergeries pendant l'hiver, c'est-à-dire tasser la neige pour pouvoir entrer dans la bergerie, mettre du foin dans les mangeoires, vérifier que l'eau coule bien dans les abreuvoirs, que tout le monde va bien et refermer soigneusement pour pas qu'elles aient froid parce qu'il y a de la neige partout. Et tous les jours, pendant tout l'hiver. Donc ça, c'est moins passionnant, mais il y a quand même le contact avec les bêtes qui est un truc assez fabuleux, quoi. Mais ça, c'est difficile à expliquer, hein. C'est un truc qui se vit, en fait. Tu t'occupes juste de voir qu'elles soient en bon état, qu'elles aillent bien. Tu soignes les petits bobos. Et puis ça se passe bien, et plusieurs voisins décident de me confier leur troupeau. Comme ce vieil homme avait pris sa retraite, ils se sont retrouvés sans berger, les gens de la vallée. Je fais savoir, juste en discutant au bistrot, que j'allais repartir pour une deuxième estive, et je me retrouve avec un troupeau de presque 1000 bêtes. En fait, j'ai aimé la solitude. C'est un moment de bonheur pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une totale liberté. T'as pas besoin de tenir compte des autres, de leur avis, de ce que tu leur renvoies, de ce que tu peux éventuellement leur causer comme émotion, ou comme tort, ou comme bonheur. Tu t'en fous, ils sont pas là, quoi. Je monte à chaque fois suffisamment de bouquins, parce que j'aime la lecture depuis toujours, et même de plus en plus. Des livres d'histoire, de politique, de philosophie, de sciences humaines. Et un peu de biologie. J'ai enchaîné presque tous les ouvrages de Nietzsche en un été, parce que ça m'a vraiment marqué, parce que Nietzsche, il écrit exactement au rythme qui convient à la garde d'un troupeau de chèvres laitières, quoi. Si tu le lis comme ça d'une traite, t'as rien compris, quoi. Il faut lire deux, trois phrases, et il faut y revenir, il faut te poser la question, il faut te parler à toi-même, tu poses les chèvres quelque part, elles sont tranquilles, tu lis un paragraphe ou deux, une partie, exactement quand tu arrives à la fin de la partie en question, c'est le moment de relever la tête parce que les cloches commencent à s'agiter, les chèvres bougent. Donc j'ai lu plein de trucs dans ce genre-là, ouais. De la vallée d'Ossau à l'ouest jusqu'au Val d'Aran à l'est, j'ai fait donc la transhumance pendant 11 ans. Ouais, la déviation pour moi c'est d'arriver devant un obstacle, un imprévu, et de changer de route pour éviter cet obstacle. Moi, j'ai jamais vu d'obstacle parce que je savais pas où j'allais, quoi. C'est plutôt une inflexion régulière et assez lente de mon chemin. Et puis, il y a des accidents du parcours. Voilà, là, j'ai vraiment tourné au moins à 90 degrés. Je ne sais toujours pas où je vais, mais j'y suis de mieux en mieux, quoi, sur cette route. Way up high in the mountains, in the kingdom of the pine, I live with the best old pal I know, this old white mule of mine. His back's caved in and he's mighty thin, but his legs are strong and fine. So I sing a song as he carries me along, this old white mule of mine. When they have a dance in the valley, then I quit my work at the still, and I climb aboard my old white mule and go riding down the hill.
His back's caved in and he's mighty thin, but his legs are strong and fine. So sing a song as he carries me along, this old white mule of mine. He shares my joys and my sorrows, he shares my bed and my wine. He even wants to share my gal, but there I draw the line. His back's caved in and he's mighty thin, but his legs are strong and fine. So I sing a song as he carries me along, this old white mule of mine. We had a fight the other night and I called him several names. So he kicked me down the mountainside, but I loves him just the same. His back's caved in and he's mighty thin, but his legs are strong and fine. So I sing a song as he carries me along, this old white mule of mine. The judgment day is a-coming soon, and the golden stairs I'll climb. And I know St. Peter will welcome me in on this old white mule of mine. His back's caved in and he's mighty thin, but his legs are strong and fine. So I sing a song as he carries me along, this old white mule of mine.